est nommé sous la marque La Banque Postale Assurance IARD, entreprise régie par le Code des Assurances.
Vous écoutez Europe 1, il est 13h.
Europe 1, 13h.
Céline Géraud.
Bonjour à tous et bienvenue à bord. Europe 1 13h, vous le savez, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Dans ce journal, les préconisations d'un groupe d'experts pour réguler l'usage des écrans chez les plus jeunes. Interdiction totale pour les moins de 3 ans, pas de téléphone portable avant 11 ans. Louable, oui, mais est-ce vraiment réalisable? Tous les détails dans quelques instants. L'actualité, c'est aussi les insoumises Mathilde Panot et Rima Hassan entendues ce matin par la police dans le cadre d'enquête pour apologie du terrorisme. Nous sommes à la veille du 1er mai, le petit pot de muguet. Demain, bien sûr, c'est la tradition. En attendant, les producteurs de muguet redoublent de vigilance face à la recrudescence des vols. Si, si. Et puis demain, Dortmund-PSG, match aller en demi-finale de la Ligue des Champions. Europe 1 a suivi des supporters parisiens qui partent en Allemagne. Rendez-vous à la fin de ce journal. Bonjour Géraldine.
Bonjour Céline.
La tendance météo pour l'après-midi?
Agité et orage dans le sud-est, plus sec vers l'Atlantique et en Alsace, où il fera jusqu'à 26 degrés. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal.
Europe 1.
Et on ouvre donc ce journal avec ce rapport d'experts missionné par le gouvernement sur l'usage des écrans chez les plus jeunes pour reprendre le contrôle, éviter les dérives et les effets négatifs sur le développement de nos enfants. Louise Salé, vous êtes non loin de l'Élysée, vous venez d'assister à la présentation de ce rapport. Que faut-il retenir ?
Eh bien, une règle toute simple, pas d'écran avant 3 ans, puis pas de téléphone avant 11 ans et pas de réseaux sociaux avant 15 ans, en privilégiant à partir de cet âge-là des plateformes dites éthiques comme Blue Sky, pas de Snapchat, TikTok ou Instagram, donc avant 18 ans. Ces préconisations très précises en fonction de l'âge s'appuient sur des études qui mesurent les dangers des écrans, en particulier chez les tout-petits. Servane Mouton est neurologue, elle a co-présidé cette commission.
Sur le plan scientifique, la littérature est plutôt consensuelle sur le fait de dire que les écrans ne sont pas bons pour l'enfant de moins de 3 ans. Entre 3 et 6 ans, il y a des alertes sur le plan neurodéveloppemental qui incitent à dire qu'il faut vraiment que ce soit des temps très restreints et avec des contenus éducatifs et accompagnés par des parents, parce qu'il faut intégrer aussi le problème de la vision et de l'exposition à la lumière bleue qui peut avoir des conséquences sur la rétine.
Les experts s'alarment aussi des algorithmes qui enferment les jeunes sur les sites et incitent donc à légiférer pour mieux contraindre les industriels.
Le modèle économique sur lequel se sont basées les plateformes de réseaux sociaux et certains jeux vidéo en ligne également repose sur la captation de l'attention pour monnayer les données de navigation. À partir du moment où ce modèle repose sur le temps passé en ligne et le fait d'y revenir souvent, on va se retrouver confronté à un conflit d'intérêts avec la santé. Avant tout, il va falloir réguler cette captation d'attention qui s'appuie sur le fonctionnement normal du cerveau.
À l'école, enfin, les écrans doivent aussi être limités. Il faut qu'ils disparaissent des classes de maternelle. Et en primaire, les tablettes et ordinateurs personnalisés sont déconseillés.
Louise Salé, spécialiste éducation à Europe 1. Alors, faut-il interdire les écrans avant 3 ans, les téléphones portables avant 11 ans? Qu'en pensez-vous? Est-ce réaliste, réalisable? Venez réagir dès 13h30. Europe 1, 13h vous donne la parole.
Vous composez dès maintenant le 01 80 20 39 21. Le numéro est non surtaxé. 13h03 sur Europe 1. La suite du journal, Céline Géraud.
Alors, pas de portable avant 11 ans, pas de réseaux sociaux avant 15 ans. L'intention est louable, mais difficile à tenir. Il y a malgré tout des familles qui s'organisent un peu partout en France pour protéger leurs enfants des écrans. Illustration dans le nord de Rennes où des parents d'élèves ont décidé de signer un pacte en ligne. Le reportage de Sandrine Prioul.
Il est demandeur, il rentre à la maison, il faut faire comme les copains. Pour l'instant, on craque pas. Heureusement qu'il fait du sport à côté, en fait.
Sur ce cours de tennis, devant le match de leurs ados, ces trois parents tombent d'accord. Leur fournir un portable, oui, mais le plus tard possible.
Bien sûr, ce sera peut-être un extraterrestre.
Mais en tout cas, là, nous, notre objectif, c'est d'essayer de tenir le plus longtemps possible sans téléphone. Quand j'étais enfant, on n'avait pas accès à la téléphonie. Alors mon fils, Maxime, il connaît nos numéros de téléphone. Et si on n'est pas là, il nous appellera sur le téléphone fixe. Nous, on s'est tenus avec la maman de mon petit garçon.
Oui, moi, je suis d'accord. D'autant plus que je suis enseignante. Donc je vois les ravages du téléphone sur les élèves. Plus tard, il aura un portable, mon fils, mieux je m'en porterai.
Ils ont donc signé un pacte, mis en ligne par Olivier Leport, de repousser le smartphone à l'entrée en lycée.
Beaucoup de parents font le choix de donner un smartphone à leur enfant par résultat de cette pression sociale. C'est subi. Nous, on veut simplement un vrai choix. Et c'est l'objet de notre pacte, c'est de se dire, pour que mon enfant n'ait pas de smartphone, il faut que ses copains n'en ont pas non plus.
Un mimétisme à l'envers, mais ce papa rappelle qu'il fonctionne déjà ailleurs, comme en Espagne.
Le reportage de Sandrine Prioul, la correspondante Europe 1 dans le Grand Ouest. 13h04, l'actualité de ce mardi 30 avril. C'est aussi une députée et une candidate aux européennes de la France insoumise entendue par la police judiciaire. Mathilde Panot et Rima Hassan étaient convoquées ce matin dans le cadre d'enquête pour apologie du terrorisme. Alexis de la Fontaine, vous êtes devant le siège de la police judiciaire dans le 17e arrondissement de Paris et Rima Hassan vient de sortir de son audition.
Oui, après 2 heures d'audition par la police judiciaire, Rima Hassan, kéfi autour du cou, ne semble pas perturbée par les potentielles poursuites judiciaires et assume toujours ses propos légitimant l'action du Hamas.
Je ne regrette rien, absolument rien. Je suis responsable de ce que je dis jusqu'au bout. Je ne suis pas responsable de comment les personnes l'interprètent.
À la sortie, l'avocat de Rima Hassan se dit confiant à l'idée que les plaintes soient classées sans suite. De son côté, Mathilde Panot est toujours en audition au moment où je vous parle. Et ce matin, juste avant de rentrer dans les locaux de la PJ, la présidente des députés insoumis s'en est prise aux enquêteurs.
À ceux qui nous convoquent, j'accuse, vous dévoyez les moyens de l'antiterroriste pour faire taire les voix de la paix et criminaliser les militants.
Pour l'instant, le parquet de Paris n'a pas encore annoncé de potentielles poursuites judiciaires à ces auditions.
Alexis de la Fontaine, en direct du siège de la police judiciaire à Paris pour Europe 1. Dans ce journal, maintenant, le respect de la laïcité n'est pas négociable. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, demande au procureur davantage de sévérité en cas de violence commise au nom de la religion. Une consigne transmise au procureur sous forme de circulaire, ça devient même une circonstance aggravante, William Molinier.
Un homme qui violente sa femme parce qu'elle n'a pas mis son voile sera désormais poursuivi avec une circonstance aggravante, celle de violence commise en raison de l'appartenance vraie ou supposée à une religion. Éric Dupond-Moretti exige que les procureurs activent systématiquement dans ce genre de cas l'article 132-76 du code pénal. Cela permet d'augmenter la peine encourue. Jamais on n'était allé aussi loin dans l'interprétation de ce texte, souffle un magistrat. En clair, c'est aussi une façon de renforcer la protection des fidèles gênés par les franges rigoriste ou éloigné des principes de laïcité. Dans cette circulaire, le garde des Sceaux veut une réponse pénale ferme et rapide quand les infractions sont commises dans l'espace public ou aux abords d'un établissement scolaire. Les procureurs devront d'ailleurs réclamer une peine de prison ferme quand la circonstance aggravante de la religion sera retenue. Ces consignes ne s'appliquent qu'aux magistrats du parquet puisque seuls les juges du siège, c'est-à-dire ceux des tribunaux ou des cours, ont le pouvoir de condamner et de prononcer des sanctions.
William Molinier, spécialiste police-justice à Europe 1. 3 jours après la mort de Matisse, 16 ans, poignardé par un adolescent de 15 ans à Châteauroux, ce sondage exclusif CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche, faut-il suspendre l'excuse de minorité pour les mineurs qui participent à des crimes graves? Eh bien, vous répondez oui à 75%. Et dès 13h20, eh bien, on va revenir sur ce sursaut d'autorité annoncé par le Premier ministre, mais qui n'aboutit à ce stade sur aucune avancée sur le plan judiciaire. Qu'en pensez-vous?
Venez réagir au 01 80 20 39 21 13h08. Vous écoutez le journal de Céline Thiraud sur Europe 1.
Et l'actualité politique aujourd'hui, il faut regarder du côté des Républicains qui viennent de dévoiler la liste officielle pour les élections européennes du 9 juin prochain. Derrière François-Xavier Bellamy, Céline Himard et Christophe Gomard, 2 surprises. L'ancienne députée d'Ille-et-Vilaine Isabelle Le Callennec prend la 4e place, suivie par l'élu niçois Laurent Castillo. Alexandre Chauveau, Nadine Morano et Brice Hortefeux ne sont pas loin derrière.
Oui, longtemps menacés, ils sont respectivement 6e et 7e sur la liste, en place éligible donc. Les 2 sortants, anciens ministres, figures du sarkozysme, sur qui pesait la principale incertitude, ont finalement été sauvés, soutenus notamment par Laurent Wauquiez. Les eurodéputées sortantes Nathalie Collin-Osterlée et Anne Sander occuperont la 8e et 10e place, tandis que le président des Jeunes Républicains, Guilhem Carayon, partira en 9e position. Geoffroy Didier, lui, est rétrogradé à la 11e place. Alors cette liste s'est faite dans la douleur. Éric Ciotti et François-Xavier Bellamy cherchant jusqu'au bout l'équilibre entre le renouvellement et l'expérience. Un casse-tête qui fait forcément des déçus. Tout le monde savait que c'était un exercice difficile à passer, concède un élu du parti. Bruno Retailleau et Gérard Larcher se sont d'ailleurs abstenus au moment du vote. Si les sondages en restaient là, LR enverrait entre 7 et 8 députés au Parlement européen.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Europe 1, il est 13h09.
13h, 14h, Céline Géraud.
C'est une petite inflexion et une bouffée d'optimisme pour notre économie française. Le produit intérieur brut, le PIB, le PIB, comme dans nos cours d'économie, a progressé de 0,2% sur les trois premiers mois de l'année. Baptiste Morin, un chiffre de croissance qui a de quoi rassurer.
Oui, d'abord parce qu'il surprend, l'INSEE prévoyait une stagnation de notre activité économique. Et ensuite, parce que c'est la consommation des ménages, le principal moteur de notre croissance qui s'est réveillé. Les Français ont peut-être commencé à utiliser leur surépargne avance. Éric Heyer, il est le chef du département prévision à l'OFCE.
Il y a une épargne normale des ménages aux alentours de 250 milliards d'euros et aujourd'hui, on est à peu près à 220-230 au-dessus de cette épargne normale. Le chiffre de ce matin peut laisser entendre qu'une petite partie de cette surépargne serait consommée.
Si cela se confirme, alors la consommation des ménages devrait continuer à progresser au deuxième trimestre 2024. Ce matin, Bruno Le Maire avait beau jeu de réagir en visant, je cite, « tous ceux qui veulent faire croire que notre économie est à l'arrêt ». Après le nombre de demandeurs d'emploi stable en fin de semaine dernière, après la non-dégradation de la note française par les agences Fitch et Moody's, voilà un troisième motif de satisfaction pour l'exécutif. Après une séquence politique sur les finances publiques, très difficile. L'objectif d'une croissance à 1% sur l'ensemble de cette année 2024 ne paraît plus inatteignable.
Merci Baptiste Morin pour ces précisions, chef du service économie d'Europe 1. Les 13h10, ce drame maintenant, au moins 3 morts dans l'incendie d'un appartement à Paris la nuit dernière. Alban Le Prince, quels sont les éléments dont vous disposez à la mi-journée?
Eh bien écoutez, il est un peu plus de 4 heures cette nuit lorsque les pompiers sont appelés. Un incendie est en cours, boulevard des Italiens, dans le 2e arrondissement de Paris, à 300 mètres à peine de l'Opéra Garnier. Les flammes ravagent la cage d'escalier, empêchant les personnes qui habitent au 7e et dernier étage de l'immeuble de descendre. Et si une dizaine d'entre elles arrivent à s'échapper par le toit, trois autres piégées par des barreaux anti-intrusion fixés à leurs fenêtres sont piégées. Une autre personne se trouve actuellement en urgence absolue, prise en charge à l'hôpital Lariboisière. Deux pompiers ont aussi été blessés dans cet incendie. Des investigations sont en cours pour déterminer l'origine du feu. La piste d'une fuite de gaz est évoquée. Une enquête est ouverte, confiée au commissariat de Paris-Centre.
Les informations d'Alban Le Prince. Demain, c'est le 1er mai, la fête du travail et la tradition du muguet, bien sûr, porte bonheur pour nous, mais source de stress pour les producteurs. Pourquoi? Eh bien, parce que depuis plusieurs jours, les vols de muguet se multiplient et pour contrer ce fléau, il faut redoubler de vigilance. C'est le cas de Bruno Aubert. Il est propriétaire des serres fleuries à Lefrancouc, c'est près de Dunkerque. Le reportage de Lionel Gougelot.
C'est un trésor sous haute surveillance. 140 000 pieds de muguet cultivés sous serre ici depuis 8 semaines par Bruno Aubert. Une production qu'il a fallu sécuriser pour éviter les cambriolages.
On fait très attention à tout ce qui part, tout ce qui rentre, qui arrive, pourquoi, pour quelle chose. Tout est fermé, on a des caméras de surveillance. Elles sont à l'extérieur, dans les établissements. On évite de dire où on plante du muguet. Et c'est surtout les derniers moments, comme maintenant.
Car à l'approche du 1er mai, il a même fallu parfois renforcer le dispositif.
On avait vu qu'on allait être cambriolés. On avait des gens la journée qui tournaient. On a pris des vigiles pour une nuit. C'était incroyable quand même.
Un muguet volé, objet de trafic souvent juteux.
Compte tenu du prix et du peu d'encombrement, c'est facile à prendre une centaine de pots. Ça, c'est pas un problème. Mais une centaine de pots à 5-6 euros minimum, ça vous fait tout de suite 600 euros. C'est pour ça que c'est très convoité.
Alors méfiance, prévient le producteur, un muguet en pot vendu sur le trottoir peut être d'origine suspecte.
Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on achète des pots de muguet avec une collerette, etc. et qu'on le vende sur la rue. C'est qu'on l'a soit volé, soit acheté dans un marché particulier.
D'où l'importance, selon Bruno Aubert, de mieux contrôler la vente à la sauvette. À Lefrancouc, Lionel Gougelot, Europe 1.
13h13 sur Europe 1. Le sport maintenant, Céline, avec Dortmund PSG J-1 pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions.
Oui, et comme chaque année, les supporters parisiens y croient dur comme fer. Ils seront 4000 demain soir dans le Westfalenstadion, 82 000 places. Ça fait 3 ans que le club allemand n'a plus perdu sur sa pelouse en Ligue des Champions. Le PSG va donc devoir sortir le grand jeu. Cyril de la Morinerie a rencontré deux Parisiens qui s'apprêtent à partir en Allemagne, encourager leur équipe de cœur.
Oui, Maxime et Victor vont partir ensemble demain à Dortmund. Pas question de voir ce match à la télé, c'est en tribune que Maxime veut vivre ce grand rendez-vous.
On n'a pas hésité une seconde, dès que la billetterie est sortie, on a pris tout de suite notre place. Ça va être une journée historique qu'on ne voulait pas rater.
Ces deux fans du PSG vont partir de Paris en voiture, durée du voyage un peu plus de 6 heures. Pour l'occasion, Victor va décorer le véhicule.
On va mettre les maillots sur le tableau de bord, les écharpes sur les fenêtres. On est prêt pour supporter le PSG.
Et une fois arrivé au stade, le menu c'est saucisses frites, puis victoire du PSG.
Vu les dernières performances de Dortmund, oui, on espère la victoire. Après, voilà, ça reste un match de Ligue des Champions.
champions.
Mais face au mur jaune et ses irréductibles supporters allemands, il sera difficile de se faire entendre. Victor va tout donner.
L'idée, c'est de finir avec plus de cordes vocales et de chanter.
Et Maxime s'échauffe dès maintenant la voix pour tenter de remporter également le match des tribunes.
Après tant d'années de galères et de combats, ou pour toi Paris SG, on va se casser la voix. Oh, oh, oh.
Merci voilà, Cyril de la Modrinerie. Alors pour The Voice, c'est pas gagné en revanche. Il va falloir repasser. Allez, 13h14, bien sûr, un point sur les marchés comme chaque jour avec vous, Didier Hameau de Boursier.com. Un marché stable aujourd'hui.
Oui, il ne se passe pas grand-chose. Un marché très calme avant le 1er mai. Hein. Ce sera férié demain en bourse. 8065 points, le CAC 40 inchangé. Les publications de résultats d'entreprise se poursuivent avec du bon du côté de Thales, plus 1%. Du plus terne avec Stellantis ou Air France qui recule de 2 à 3%. D'ailleurs, c'est très calme aussi. Amsterdam a changé, Francfort perd 0,3%, Bruxelles plus 0,3%. Le CAC 40 est stable, 8065 points.
Merci beaucoup Didier Hameau de Boursier.com. Et 13h15, on fait un point sur la météo l'après-midi avec vous, Géraldine Hamon. Une météo agitée et orageuse à l'est.
Avec des pluies effectivement qui gagnent la vallée du Rhône et qui débordent sur les Alpes et la Provence. Des orages et de la grêle sont donc aussi prévus sur le centre, l'Auvergne, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Île-de-France. Ces orages vont se décaler sur les Hauts-de-France et surtout le Grand Est, sauf l'Alsace qui reste épargnée, l'Alsace et le Jura, ainsi que la Corse où le temps reste sec et lumineux tout au long de l'après-midi. De belles éclaircies dominent aussi du Cotentin au Pays Basque avant l'arrivée des pluies, malheureusement en fin d'après-midi, et des pluies qui sont présentes sur la pointe bretonne en ce moment. Cette pluie qui est accompagnée de rafales de vent allant jusqu'à 60 km/h. Pour les températures, on attend 14 degrés à Brest et Quimper, 15 à Saint-Brieuc, 16 à Boulogne-sur-Mer, 18 à Rennes, 19 à Caen et Paris, 20 degrés à Lille, 21 à Marseille, 22 à Nice, jusqu'à 25 degrés à Nancy, Strasbourg et Colmar. Pour demain, le temps restera orageux et instable sur toute la France quasiment, à part l'Alsace qui bénéficiera d'un beau soleil et de températures très chaudes.
Merci Géraldine Hamon et on reste ensemble évidemment avec vous chers auditeurs d'Europe 1 jusqu'à 14h dans quelques instants comme chaque jour. On va décrypter l'actualité avec Jean-Claude Dacier et Paul Melun. On reviendra notamment sur Mathilde Panot et Rima Hassan convoquées ce matin pour apologie du terrorisme à la police judiciaire. Faut-il retenir une circonstance aggravante en cas de violence contre une personne ne respectant pas les principes religieux? On se posera cette question. Et puis faut-il interdire les écrans pour les enfants de moins de 3 ans, les portable avant 11 ans, comme le préconise cette commission d'experts? Eh bien, on en débat avec vous, 01 80 20 39 21.
De 13h à 14h, Céline Giraud vous informe sur Europe 1. Europe 1.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie. Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal, c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Entre passé et présent, héritage culturel et création contemporaine, l'artiste Jiang Chong-Er réinterprète les traditions chinoises millénaires au musée Guimet. Des installations monumentales et spectaculaires, une réflexion visionnaire sur le temps, un parcours sensoriel et spirituel comme un pont entre la France et la Chine. Gardien du temps, à découvrir dès maintenant au musée Guimet, avec Europe 1.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, les forfaits mobiles, ça me donne l'impression de passer à la mairie. Tous ces gigas jusqu'à ce que la mort nous sépare, merci bien.
Dis calme, on a la solution. En ce moment, chez Leclerc, le forfait réglo mobile avec 130 gigas et les appels SMS, MMS illimités est à 9,50€ par mois. Et c'est sans engagement.
Sans engagement? Jurez?
Mais oui. Le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc, conditions de l'offre consultable en magasin et sur réglomobile.fr.
Hé, trop de
Boulos, tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte ?
Ah oui, ici on a le top de la couverture, hein, en lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid.
Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers.
Chaque printemps, nous, producteurs de la coopérative des Noirmoutiers, récoltons la pomme de terre primeur de l'île. La Noirmoutier, c'est un an de passion et de travail pour une saison qui ne dure que 3 mois. Cette année, plus que jamais, nous avons à cœur de vous régaler chez vous. Profitez-en maintenant. La Noirmoutier, unique, comme son nom l'indique.
Europe 1 13h.
On est de retour évidemment au Repas 13h avec vous Géraldine Amont et nos chroniqueurs du jour.
Exactement, Jean-Claude Dacier, chroniqueur politique et l'écrivain Pommelin.
Bonjour messieurs, bienvenue à bord.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver pour décrypter comme chaque jour l'actualité. Alors évidemment, on va revenir sur cette information. On en parlait il y a quelques minutes dans Europe 1 13h. Une députée et une candidate aux européennes au commissariat. Ce matin, Mathilde Panot et Rima Hassan ont donc été convoquées par la police judiciaire pour apologie du terrorisme. On a entendu Rima Hassan qui sortait de son audition avec Alexis de La Fontaine qui disait ne rien regretter de ce qu'elle avait dit et que c'est simplement l'interprétation qui avait été faite de ses propos qui avait été déformée. À quoi faut-il s'attendre de cette convocation? Paul Melun.
Écoutez, je pense que les deux cas sont différents. Disons que Rima Hassan, elle, répond pour des propos qu'elle a tenus qui flirtent effectivement avec l'apologie du terrorisme. Ce sera la justice d'en décider, mais quand dans une émission web, si je me souviens bien, elle avait dit que le Hamas menait une action légitime, quand on lui avait posé la question, elle avait dit oui. Bah, c'est assez clair. Le Hamas, les actions du Hamas récentes, c'est pas d'aller planter des pâquerettes, c'est d'avoir assassiné des centaines de personnes dans des conditions abjectes le 7 octobre.
Donc, c'était fin novembre, Média Le Crayon, voilà, effectivement, et Le Crayon. Elle avait dit vrai concernant le Hamas, voilà, qui menait action légitime.
Donc là,
légitime.
Effectivement, on en avait déjà parlé ici avec Jean-Claude, en débattant ici sur le fait que moi je suis pas très favorable à la judiciarisation de la vie politique, et que je suis très favorable à la liberté d'expression, mais la liberté d'expression a des limites. Et si on dit que l'action de terroriste est légitime, ça peut s'apparenter à de l'apologie du terrorisme, comme d'ailleurs il y avait eu ce communiqué du nouveau parti anticapitaliste qui était lui aussi très très ambigu. Pour ce qui est de Mathilde Panot, c'est un peu différent. Mathilde Panot, on l'invite à répondre pour les propos de son groupe en général. Là, convoquer une présidente de groupe, suite au communiqué de la France Insoumise du 7 octobre, convoquer la présidente d'un groupe politique qui est le premier groupe de gauche à l'Assemblée nationale, là je trouve le signal un peu plus inquiétant. Et moi, je n'aime pas trop que l'on règle dans les tribunaux les différents politiques. Et je pense qu'avec la France insoumise, nous en sommes encore, en tout cas je veux le croire, nous en sommes encore aux différents politiques et pas aux différents judiciaires. Ça me paraît assez évident. Donc, combattons intellectuellement, idéologiquement, ce que peuvent raconter des gens comme Mathilde Panot, avec lesquels je n'ai sur le sujet du Hamas que des désaccords. Mais de grâce, laissons les tribunaux s'occuper des vraies affaires judiciaires et laissons la politique... aux hommes politiques et aux citoyens.
Jean-Claude Dacier, Mathilde...
Parce que je crains d'être d'accord avec Paul.
Parce que Mathilde Panot parle d'abus de pouvoir intolérable, la liberté d'expression
musée. Je crains que le parquet ait fait du zèle. Notamment ce qui concerne... qui se soit un peu empressé, notamment ce qui concerne Panot. Je suis comme toi, je fais un peu la différence, et même sensiblement la différence. Quand on commence à convoquer devant la police et les magistrats peut-être derrière... des responsables politiques pour les propos tenus par, ça me gêne quelque part.
Là, il s'agit en l'occurrence, je le rappelle pour nos auditeurs, d'un communiqué dans lequel le LFI disait que l'attaque du mouvement islamiste du Hamas était décrite comme une offensive armée de forces palestiniennes et l'intensification de la politique d'occupation israélienne dans les territoires palestiniens.
Là, moi, je veux que les choses soient claires. Je n'ai pas de doute sur la nature terrorisme. De cette action précise du 7 octobre, qui est une atrocité absolue. Je n'ai pas vu les images, je n'y ai pas été convié, mais néanmoins, il y a unanimité. Je veux dire, on ne s'attaque pas là à des soldats. On ne s'en est pas pris à des forces spéciales de Tsahal qui auraient été dans les parages. C'est un autre problème de savoir pourquoi le front avait été à ce point dans le sud dégarni, c'est un autre débat.
Oui, alors il dénonce une dérive autoritaire.
Bon, moi, je maintiens que sur Panot, je pense que... Regardez ce qui va se passer. Si on constate, si la police, si les enquêteurs constatent qu'au fond, il n'y a rien à leur reprocher, ils vont renforcer la France insoumise. C'est pas très malin. Sur Assam, Hein, c'est vrai. Sur Assam, bon, je la connais moins bien, je la connais même pas du tout, pour être franc. Je pense que son engagement et sa tolérance au terrorisme me paraît plus marqué que Mathilde Panot. Encore une fois, liberté d'expression, c'est quand même quelque chose d'essentiel et de capital si on veut que ce pays vive et continue de vivre normalement. Et il me semble là qu'on flirte et qu'on frôle l'abus de pouvoir.
Et quand le coordinateur LFI, Manuel Bompard, dit que les convocations judiciaires sont à l'initiative de l'organisation juive européenne, c'est ce qu'il a dit.
Alors ça, là c'est autre chose. Il y a effectivement, bien sûr, non mais il y a chez les insoumis une volonté de capitaliser sur ce qui est en train de leur arriver au plan politique. Ne soyons pas dupes.
Oui.
Il y a chez les insoumis une forme aussi de malhonnêteté intellectuelle et de victimisation dans cette séquence qui leur permet, et d'ailleurs la justice leur offre cette possibilité en les convoquant, de se mettre en martyr de la République,
ce matin à 8h30, encore avant même leur audition, elles étaient toutes les deux, elles ont organisé une conférence de presse.
Ça a quand même un petit côté un peu ridicule. Ça, je veux dire, moi, je déplore cette décision de les convoquer, mais nous ne sommes pas non plus en Corée du Nord. C'est-à-dire que ce sont des opposants politiques. Ils ont tenu moult propos depuis le 7 octobre qui étaient hautement contestables. Personne ne les a empêchés de les tenir. Ils ont pu les tenir sur tous les plateaux de télévision où ils étaient conviés, sur toutes les radios, dans tous les journaux. Donc, nous ne sommes pas à l'âge de la censure totale. Par contre, il faut prendre garde, il faut faire attention sur les interdictions de conférences, sur les convocations d'hommes et de femmes politiques. Il faut faire tout cela avec une main qui tremble, et je pense que là, il y a effectivement une forme de dérive, et que c'est pas rendre service à la démocratie, c'est plutôt même rendre service politiquement à la France insoumise, parce que ça leur permet de se victimiser.
Bon, je suis encore une fois d'accord, mais il faut jamais oublier que la prépondérance du Hamas, par rapport à l'autorité palestinienne, très affaiblie, corrompue, etc., etc., était aussi un accord global, y compris avec les Israéliens. Tout le monde sait par quel circuit arrivait l'argent qui permettait, via du Qatar, et qui permettait au Hamas de vivre. Il y avait évidemment la volonté de maintenir le Hamas dans de bonnes situations politiques, parce que c'était un ennemi juré, et c'était effectivement un mouvement terroriste, par rapport à l'autorité palestinienne, avec ce pauvre Mahmoud Abbas, toujours en poste d'ailleurs, et qui n'est pas capable, dépassé par les événements, et qui n'est pas capable, demain, de représenter une alternative politique, si tant est qu'on y arrive.
Et quand Mathilde Panot dit vouloir abroger, elle demande à ce que la loi, la fameuse loi antiterroriste du 13 novembre 2014, la loi du ministre Bernard Cazeneuve, soit abrogée. Elle juge que la formulation est floue, elle dénonce son interprétation qui donne du n'importe quoi. Je n'ai pas de problème à ce qu'on garde l'apologie du terrorisme, j'ai un problème avec le fait qu'on est en train de le vider de son sens. Voilà, elle demande à ce que cette loi soit révisée.
J'avoue que j'ai une petite faiblesse sur le contenu de la loi, je ne suis pas... Mais honnêtement... ça ne me paraît pas, en ce qui concerne Mathilde Panot, un extraordinaire bon dossier. Nous verrons comment tout ça, ça va se terminer. J'ai peur que ça renforce, plutôt que ça n'affaiblisse, la France insoumise, qui est à l'action politique. Là. Ils sont au charbon, en essayant d'agiter dans toutes les universités, et si possible dans les grandes écoles. Le maximum, pour l'instant, ce n'est pas un succès. Hein. C'est plutôt des minorités agissantes, des gens qui sont très radicalisés, qui sont à Sciences Po ou qui ne sont pas à Sciences Po, à la Sorbonne ou pas à la Sorbonne, pour l'instant c'est pas un succès, ça peut le devenir. Aux États-Unis c'est tout à fait différent.
13h27, on est ensemble jusqu'à 14h avec Paul Melun, Jean-Claude Dacier et vous, 01 80 20 39 21 si vous souhaitez réagir. Dans quelques instants vous allez entendre notre invité de 7h10, Dimitri Pavlenko, Pauline Condomine, qui a infiltré pendant plusieurs mois plusieurs associations d'extrême gauche. Vous allez entendre son témoignage, il est édifiant, et on se posera la question: est-ce que ces associations qui utilisent finalement la cause palestinienne ne veulent pas déstabiliser la République? A tout de suite sur Europe 1.
Bon début d'après-midi avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1.
Europe 1. C'est donc désormais officiel, le déficit pour 2023 s'élève à 5,5% du PIB.
La France ne lésinera pas sur les dépenses pour lutter contre le terrorisme.
Quand on dit qu'on n'exclut pas d'envoyer les troupes au sol, naturellement, vous créez une onde de choc dans le pays.
Pardonnez-moi, mais comment voulez-vous que les délinquants, que les terroristes, qui que ce soit, aient peur de la prison?
Nous avons été informés qu'une menace attentat avait lieu sur le lycée de mon enfant.
Ça a tiré pendant au moins 30 minutes, comme si c'était une guerre en fait.
Il nous faudrait systématiquement une déclaration commune, une concorde nationale pour condamner tous ces actes.
Europe 1, avec vous.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Hier, mon mari a rapporté du beau muguet de chez Leclerc.
Oh, ça c'est gentil, ça vous a fait plaisir?
Bah, ça aurait pu, sauf qu'en fait, il l'a offert à sa mère.
Aïe, dites-lui de repasser en prendre un autre.
Du 29 au 30 avril chez Leclerc, les 3 brins de muguet et une rose sont à 2,39€.
Ah bah à ce prix-là, je vais m'en offrir à moi-même, ce sera plus sûr.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Existe en différents coloris, voire détails en point de vente. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc.
Chez Poltron et Sofa, la qualité se voit, mais surtout, elle se ressent. Caressez le cuir du canapé Bormida et détendez-vous avec son relax électrique.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 184€.
Venez les ressentir en magasin. Poltron et Sofa, solo divan et de qualité.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, hein, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand ?
Désolé, le mouton à cinq pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit.
APEC, donner de l'élan à votre avenir.
Vouloir un enfant et avoir des jumeaux, oui, ça arrive. Découvrir qu'ils veulent faire la même école de commerce, oui, ça arrive.
Au fait, papa, notre école, elle est au Canada.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie, AG2R La Mondiale vous accompagne pour définir l'épargne la plus adaptée à vos besoins futurs. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
Europe 1, le journal permanent.
À 13h30 sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud.
Les insoumises Mathilde Panot et Rima Hassan convoquées ce matin dans les locaux de la police judiciaire parisienne, entendues dans le cadre d'enquêtes pour apologie du terrorisme, après des propos liés à la guerre au Proche-Orient, des convocations qualifiées de censure par la France insoumise. Le collège où était scolarisée Samara n'a pas fait preuve de négligence. L'enquête administrative ouverte après son agression ne relève pas de situation de harcèlement scolaire dans ce collège de Montpellier, près duquel cette adolescente a été violemment agressée en début de mois par plusieurs élèves. Il a passé sa première nuit en prison, le meurtrier présumé de Mathis, 15 ans, mis en examen pour meurtre à Châteauroux. Sa mère est également mise en examen pour violence volontaire. Faut-il suspendre l'excuse de minorité pour les mineurs qui participent à des crimes graves ? C'est oui pour 75% des Français, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche. Trois personnes sont mortes la nuit dernière dans l'incendie d'un immeuble du 2e arrondissement de Paris, boulevard des Italiens. La piste d'une fuite de gaz est envisagée. Comment protéger les enfants des écrans ? Un rapport préconise de les interdire pour les enfants de moins de 3 ans. Interdiction des téléphones aux moins de 11 ans, des smartphones aux moins de 13 ans. Un rapport remis aujourd'hui à Emmanuel Macron qui vise à guider les parents et non à imposer des contraintes par la loi. L'autoroute A13 ouvrira d'ici 2 semaines dans le sens province-Paris et seulement pour les véhicules légers. Autoroute fermée à cause de fissures apparues sur la chaussée. Fissures qui pourraient être causées par le chantier du musée de Saint-Cloud en contrebas. Enfin, la première demi-finale aller de la Ligue des Champions ce soir. Le PSG le Bayern Munich reçoit le Real Madrid. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. Et demain, bien sûr, le PSG joue à Dortmund.
13h32 sur Europe 1. Le débat continue avec vous, Céline Giraud, et vos deux chroniqueurs du jour, le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier et l'écrivain Paul Melun.
Et on poursuit évidemment ce décryptage de l'actualité. Je voulais vous faire écouter un témoignage. Elle est journaliste chez Livre Noir, Pauline Condomine. Elle a infiltré pendant plusieurs mois de nombreuses associations d'extrême gauche et elle a été témoin de scènes ahurissantes racontées dans le dernier numéro de ce magazine. Elle était l'invitée ce matin de Dimitri Pavlenko à 7h10. Écoutez-la.
Il y a un décalage. Les propos qui sont tenus publiquement maintiennent une certaine ambiguïté. Quand ils disent qu'ils soutiennent la résistance du peuple palestinien, en vérité, ils désignent le Hamas, mais ils ne disent pas directement « nous soutenons le Hamas ». Mais lorsqu'on va dans ces groupes, on se rend compte, certains, par exemple, une militante, la première réunion à laquelle j'ai assisté, a expliqué que pour elle, le 7 octobre, ça avait été la résistance en action. Un autre militant a par exemple dit qu'il fallait soutenir la résistance du peuple palestinien sous toutes ses formes, et ainsi qu'il ne fallait pas condamner les viols commis par le Hamas sur les civils israéliennes. Et toutes ces déclarations ont été tenues, notamment devant une députée de la France insoumise à laquelle j'étais à cette réunion, qui s'appelle Danielle Simonet. Et donc ces groupes qui sont en lien avec des députés, notamment de la France insoumise, ces députés savent très bien ce qu'il en est et ils jouent un peu avec le feu parce que ces militants sont extrêmement radicalisés et que ça peut même les dépasser.
Le témoignage de Pauline Condomine, invitée de Dimitri Pavlenko ce matin à 7h10 sur Europe 1, journaliste chez Livre Noir. La violence décomplexée, la manipulation. Là, on est face à des associations qui utilisent diverses causes, en l'occurrence la cause palestinienne, pour déstabiliser la République, Paul Melun.
Bien sûr. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a deux niveaux. Il y a à la fois les liaisons dangereuses, pourrait-on dire, entre des députés insoumis, en l'occurrence, selon ce témoignage, Daniel Simonet, mais d'autres comme elle, et ces groupuscules. Et ensuite, le deuxième sujet, c'est l'idéologie qui est professée dans ces groupuscules. Effectivement, ce sont des groupes qui sont très minoritaire en France, soyons honnêtes. Il y a peu de gens qui appartiennent à cette idéologie-là. C'est une idéologie extrêmement radicale, qui a une fascination, je dirais, morbide pour tout ce qui s'apparente à l'islam politique. Et là, on est, si vous voulez, au creuset, au magma le plus ardent de l'islamo-gauchisme. C'est la traduction la plus concrète du concept d'islamo-gauchisme, qui a plusieurs degrés. Il y a l'islamo-gauchisme bontain, l'islamo-gauchisme de salon de certains députés de la NUPES. Et ensuite, il y a l'islamo-gauchisme version dangereuse, version extrémiste,
oui, c'est
qui est cette extrême-gauche, effectivement, que l'on dénonce et qui existe et qui prospère, notamment dans les instituts d'études politiques, donc à Sciences Po, ou dans les universités de sciences humaines. Et les liaisons dangereuses qui s'exercent entre la partie soft, la partie visible de l'iceberg que sont les députés insoumis, et cette arrière-boutique peu reluisante de militants d'extrême-gauche qui, à en croire le témoignage de cette journaliste, eh bien, et je la crois volontiers, parce qu'il y a d'autres témoignages qui vont dans ce sens.
Oui, mais c'est des mois d'enquête, elle s'est véritablement infiltrée.
Mais effectivement, on le voit bien dans les discussions, dans les micro-trottoirs, dans les réactions d'un certain nombre de ces militants, que le sort des Israéliens le 7 octobre leur importe peu, voire pire, que certains d'entre eux souhaitaient ce pogrom et cette violence. Donc là, on n'est pas à des réflexions complexes sur la définition d'apologie du terrorisme. On est clairement dans des compagnons de route de terroristes, de barbares et d'actes de sauvagerie immenses. Donc ça devrait tous nous alarmer parce que ça dit quelque chose quand même de l'évolution d'une partie de la gauche contemporaine en France.
Jean-Claude Dacier, que vous inspire cette infiltration, cette enquête au cœur
l'essentiel, Paul l'a dit, mais je veux dire, les deux gauches, l'extrême gauche ou la gauche socialiste, sont désormais, on l'a dit, je crois que c'est Manuel Valls qui l'a pour la première fois annoncé, sont totalement irréconciliables. Ensemble, éventuellement, peut-être la prochaine fois encore, pour gagner, pour sauvegarder, quelques sièges, mais incapables de gouverner ensemble. Ils sont totalement éloignés. L'opération actuellement menée par Mélenchon et ses amis, reconnaissons quand même qu'elle est minoritaire.
Oui.
Il y avait peu de monde dans la cour de Sciences Po, quelques tantes, Quechua et quelques militants. Et effectivement, il n'y en avait pas beaucoup plus hier lors de la manif à la Sorbonne.
Ils ne sont pas restés longtemps. Pour le coup, ils ont été très très vite.
Ils ont été évacués sans grande difficulté. Mais on a bien vu, dans le coin à droite, David Guiraud, député France Insoumise, qui leur adressait un petit discours. On n'a pas entendu exactement ce qu'il disait, mais néanmoins, j'imagine ce que ça pouvait être. Donc nous avons affaire à une opération politique menée par Jean-Luc Mélenchon et ses amis, dont l'objectif est au moins d'améliorer dans la mesure du possible et de faire le meilleur score possible aux prochaines européennes. On verra, oui.
Écoute, c'est parce que vous êtes totalement en phase avec...
C'est une opération clairement politique. Pour l'instant, elle est archi-minoritaire. Alors, il y avait Rennes aussi, je crois, ce matin.
Oui.
Il y aura peut-être
là,
demain...
Là, il est question qu'il y ait une contagion au Sciences Po en province.
Strasbourg, il n'y a pas école en ce moment.
Effet, c'est la contagion. Je ne dis pas pour autant que ça nous fait penser à la guerre du Vietnam dans les années 70. Et on est loin de ce qui se passe dans les campus, dans les universités américaines. Néanmoins, vendons pas la peau de l'ours avant qu'il soit souffrant. On verra bien ce qui va arriver. Néanmoins, l'objectif, il est clairement politique. Il est mené avec des militants radicalisés. Je dis pas que le sort des Palestiniens, on le voit à la télévision pratiquement tous les soirs, n'a pas ému une grande partie de la France. Et c'est un problème pour Israël et pour la politique de M. Netanyahou. Mais les militants auxquels on a affaire hier, qu'on a bien vu hier et avant-hier, ce sont des radicaux, ce sont des militants radicalisés qui veulent très clairement... La Palestine, ça les intéresse, mais enfin, ce qui compte d'abord, c'est que le vote musulman soit avec eux, que les abstentionnistes de toujours cessent de l'être le 9 juin, etc., etc. Faire le meilleur score possible.
On a Alexandre qui nous appelle, qui nous écoute, Europe 1 13h, bonjour.
Bonjour, Céline Géraud.
Merci d'être avec nous en direct. Vous souhaitiez réagir sur ce sujet. Pour vous, il y a une manipulation de la France insoumise?
Bah oui, totalement. Il y a une exploitation politique, ça c'est clair, une manipulation. Mais je pense que dans le fond, je vois quand même, à part l'aspect tactique, je vois quand même un fond politique, un fond sociologique, un fond nauséabond dans cette France insoumise, malheureusement. Je ne pense pas qu'il s'agit que de tactique. Voilà.
Oui. Donc, là, vous faites référence aux activistes dont on vient de parler, ce reportage, cette enquête édifiante de Pauline Condomine.
Oui, non, mais tout à fait. Ça et autre chose. Je veux dire, quand on entend Madame Panot depuis qu'elle est députée à l'Assemblée nationale, quand on entend Madame Obono, quand on entend Monsieur Guiraud, enfin bon, on voit que ces gens-là sont contre les Israéliens. Il y a rien à faire. Ils sont contre.
Oui, ils sont pas pro-palestiniens. Ils sont contre. Enfin, ils sont aussi contre Israël. C'est ce que vous dites.
Mais ils sont contre Israël et par ricochet. Et je rappellerai. Et c'est ça le problème aussi. Cette contestation, elle est facilitée également par le fait que malheureusement, je ressens au plus profond de moi-même que parmi la population française, le gros de la population française. Eh bien, les gens semblent avoir oublié qu'il y a eu un 7 octobre.
Oui.
Les gens semblent avoir oublié qu'il y a eu un 7 octobre. On est dans une espèce de normalisation. Ah bah oui, c'est une... Ah ouais, c'est les Juifs contre les Arabes. Ouais.
On a tendance à effacer cette...
Voilà. Mais moi, je pense qu'il y a une espèce de voilà, c'est régularisé un petit peu. C'est passé dans les mœurs. Oui. C'est passé, voilà, 7 octobre, bon, ben, il y a eu 1000 morts. Bon, ben, voilà. Mmh. Mais c'est beaucoup plus important que ça. Mmh. Et je pense que cette action de la LFI, elle est facilitée par... je dirais cette indifférence entre guillemets des Français en général, voilà.
Merci Alexandre, du côté de Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine, continue à nous écouter évidemment sur Europe 1, Paul Melun.
Contrairement à Alexandre, et je suis peut-être plus optimiste que lui, je n'ose imaginer que les Français aient oublié le 7 octobre. Je pense que ça reste un traumatisme absolu, très fort, absolu bien sûr, et que les militants radicalisés de la France insoumise ou plus à gauche, comme on en parlait à l'instant, sont ultra minoritaires dans le pays, et c'est tant mieux. Et que ces militants-là, effectivement...
Ceux qui ont brandi les mains rouges...
Ils pèsent pas grand-chose dans le pays.
Oui, bien sûr.
En revanche, il y a dans leur outrance une détestation d'Israël, et par extension une détestation pour beaucoup d'entre eux du peuple juif, qui surpasse la question palestinienne, parce que quand on les présente comme militants pro-palestiniens, moi ça m'agace, parce que nous pouvons avoir individuellement, et même collectivement, et même politiquement, de l'empathie très profonde, la compassion pour le peuple de Gaza, qui est condamné à subir des attaques et des bombardements, avec des dommages terribles, avec des morts, avec des civils qui sont tués. Moi je suis personnellement très affecté par cela. Par contre, il y a loin de la coupe aux lèvres entre être affecté par cela, par la guerre, par la violence, etc. Et derrière, si vous voulez, être dans l'adhésion aux thèses du Hamas, être dans l'adhésion aux thèses de l'islam politique, etc. Et les mêmes, où étaient-ils lorsque les Ouïghours se font massacrer et esclavagiser en Chine ? Où sont-ils quand il y a le Sri Lanka ? Où sont-ils quand il y a eu les Arméniens qui ont été attaqués par l'Azerbaïdjan ? Enfin, si vous voulez, et contre, parfois d'ailleurs dans le conflit ukraino-russe, ils ne sont pas très présents non plus, si vous voulez vraiment jouer les défenseurs et les garants des libertés individuelles et de la des vies civiles partout dans le monde, il y aurait fort à faire. Là, j'ai l'impression que ce conflit les intéresse beaucoup plus que les autres, précisément parce que il y a dans les protagonistes et dans les belligérants les Juifs. Et c'est là que l'antisémitisme arrive.
J'espère que c'est pas le cas de tous. J'espère de tout cœur. Je crains quand même que l'accumulation tous les soirs des images à la télé, où on voit Gaza en ruine, où on est obligé d'accepter l'idée qu'il y a 30 000, 33 000, 35 000 morts, il n'y a que le Hamas qui le dit, personne ne peut le vérifier. Il n'y a pas de journalistes occidentaux à Gaza ou là ou sur le théâtre d'opération, fait que ça rend la situation compliquée. Je veux croire que M. Blinken, qui vient d'arriver, il a fait l'Arabie Saoudite hier et avant-hier, il vient d'arriver en Israël ce matin, la pression américaine est très forte, et j'espère que l'exploitation politique qu'essaie de faire Mélenchon et ses amis va être étouffée par, une bonne nouvelle qui serait la libération d'un certain nombre d'otages. Parce que c'est quand même, on a oublié quand même, t'as 129 otages qui sont encore prisonniers depuis des mois et des mois,
plus de 200 jours.
Plus de 30 sont morts, et tu as une population à Rafah dont on ne sait pas ce qu'il va en advenir, puisque M. Netanyahou ne dit pas ce qu'il veut faire. Je crains que, je crois que M. Blinken, et surtout son président, a besoin d'un résultat. Et qu'il a, parce que tous les campus américains, en France, on se pose la question, mais aux États-Unis, ils nous refont le coup du Vietnam. Vietnam, n'oubliez pas que dans les années 70, ils ont fait plier le gouvernement américain. Je dis pas que ça va se passer de la même façon. Les démocrates sont régulièrement des soutiens d'Israël et de son existence. Ils les aident par tous les moyens. On a le sentiment qu'une partie...
Mais tu as raison.
Quand même, des campus américains est en train de demander des comptes au président américain qui, lui, a besoin,
Il a une élection à gagner, Joe Biden.
Mais bien sûr. Okay. Biden a besoin je dis pas d'une victoire, je dis d'un résultat politique et d'une situation qui calme le jeu dans les heures qui viennent. L'obtiendra-t-il ? Je n'en sais rien. Apparemment, ça a l'air de pas mal se présenter, mais soyons prudents.
À suivre. 13h45, on est ensemble encore pendant 15 minutes pour décrypter l'actualité. Dans quelques instants, on va revenir sur cette volonté d'Éric Dupond-Moretti qui veut sévir contre les agressions pour non-pratique religieuse et pourquoi Gabriel Attal ne parvient pas à réaliser, à mettre en pratique son sursaut d'autorité. Et puis les écrans limités. Faut-il interdire les écrans au moins de 3 ans, les téléphones portables au moins de 11 ans? Eh bien, on en débat dans quelques instants avec vous. À tout de suite.
Et vous venez réagir au 01 80 20 39 21 13h-14h. Vous écoutez Céline Géraud sur Europe. En 2024, les enjeux pour l'économie du sport en France sont nombreux. Comment cette année sportive servira-t-elle de vitrine aux entreprises tricolores ? Réponse ce soir dès 21h sur Europe 1 dans La France bouge, présentée par Elisabeth Assayag, avec Alain Di Crescenzo, le président de CCI France, en partenariat avec la CCI Bayonne Pays Basque.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde ? DS Automobile présente le surclassement en DS3 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? En ce moment, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS3 Crossback E-Tense 100% électrique d'occasion à partir de 199€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
40 ans de regard incisif sur l'Amérique. C'est ce que propose le musée Mayol en présentant une grande rétrospective de l'artiste américain Andrés Serrano. Plus de 80 photographies révèlent une Amérique aux mille facettes. Religion, sexe, pauvreté, racisme, Andrés Serrano explore tous les tabous de son pays. Andrés Serrano, portrait de l'Amérique, une exposition au musée Mayol à Paris. Un partenariat Europe 1.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige.
L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, ça fait 2 jours que je n'ai plus de dosette de café Senseo. Et du coup, je voudrais juste préciser un truc.
Oui, je vous écoute.
Il y en a certains qui disent que le café, ça énerve. Eh ben moi, je peux vous dire que le manque de café, ça énerve beaucoup plus.
Eh bien, passez vite nous voir, ça ira mieux. Et en plus, jusqu'au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, pour l'achat d'un paquet de 60 dosettes de café Senseo, le deuxième est à moins 60%.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Europe 1 13h.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1 dans Europe 1 13h. Dernière partie avec vous, Céline Géraud, et décryptage de l'actualité avec le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier, l'écrivain Paul Melun.
Et après les agressions de Samara et de Chemsedine, dans une circulaire, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, demande au procureur de retenir une circonstance aggravante en cas de violence contre un individu jugé par son agresseur pas assez en phase avec les préceptes religieux. Paul Melun, c'est une solution à pansement pour lutter contre ces violences. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez, moi je pense que le premier pansement est la première solution, j'y reviens souvent, mais c'est ce qui doit être fait en amont de la décision judiciaire. Comment fait-on pour que, aujourd'hui en France, tout ce qui s'est produit ces dernières semaines, que ce soit avec Chemsedine, que ce soit avec Samara, que ce soit avec le coup de couteau à Bordeaux mortel envers cette personne qui seulement buvait de l'alcool pendant le ramadan, c'est comment est-ce qu'on désamorce tout ça en amont ? Et ça, c'est une politique culturelle, sociale, éducative et également migratoire. Ensuite, pour ce qui est de la décision judiciaire, l'aggravation, ça me pose moi une question philosophique dont je n'ai pas tout à fait la réponse.
C'est-à-dire ?
Est-ce plus important, doit-on condamner plus sévèrement quelqu'un qui commet un acte à raison d'une raison religieuse, puisque là, c'est ce dont il s'agit avec Éric Dupond-Moretti.
C'est des pressions communautaires, oui, on est là-dessus.
Est-ce plus grave que si je donne un coup de couteau pour d'autres raisons ? Pour moi, c'est tout aussi grave. Je ne vois pas, si vous voulez, la gradation. Alors, pour des raisons religieuses, ce serait plus grave que quoi ? Que des raisons raciales, par exemple ? Que des raisons... je ne sais pas, il y a une multitude de raisons. Enfin, de raisons, évidemment.
Donc, pour vous, il faudrait relever le curseur à tous les niveaux, ou alors ne pas le faire.
Ou on le met à tous les niveaux, et à ce moment-là, on aggrave les peines pour... on décide des aggravations de peines sur, par exemple, des attaques au couteau ou autre. Ou, à mon avis, ce qui serait plus intéressant, on se penche sur les sujets de déchéance de nationalité pour les binationaux ou d'expulsion des étrangers qui commettraient des crimes et délits en France. Ça, ça me paraît plus utile que de faire des comptes d'apothicaire sur l'aggravation des peines selon des questions religieuses. Enfin, encore une fois, je ne vois pas en quoi le motif de non-respect d'obligations religieuses. En plus, on se voile tous un peu la face parce qu'il s'agit en gros, il s'agit quand même de l'islam politique et de l'islamisme. On n'a jamais vu des coups de couteau pour carême, vous voyez. Bon, donc pour d'autres célébrations religieuses, d'autres religions, pour des célébrations, voilà. Donc si vous voulez,
c'est un coup de com pour vous, Éric Dupond-Moretti.
C'est un coup de com pour dire qu'il agit contre l'intégrisme. S'il agit comme ça sur l'intégrisme, les intégristes ont encore de beaux jours devant eux parce que ça résoudra rien du tout.
Je le crains. Il s'agit de faire que les bons musulmans ne soient pas importunés par des islamistes radicalisés qui sont très soucieux de savoir si un tel ne profite pas de la fin de soirée pour boire un petit coup de bière ou autre.
Pour vous, c'est
tout ça n'ira pas très loin. Je suis moi beaucoup plus préoccupé sur l'avenir de l'ordonnance des mineurs quand je constate, et c'est quand même bien notre boulot, de voir que les jeunes délinquants, voire les criminels, sont de plus en plus jeunes, et qu'il y a un débat manifestement qui m'est ouvert entre M. Dupond-Moretti et sans doute Matignon, et peut-être que le président de la République est de l'avis de son garde des Sceaux, sur on ne touche pas à l'ordonnance des mineurs dans les affaires qui nous intéressent.
Sondage exclusif CSA pour Europe 1 CNews, le journal du dimanche. Est-ce qu'il faut suspendre l'excuse de minorité pour les mineurs qui participent à des crimes graves ? La réponse est oui à 75%.
Voilà, ça ne m'étonne pas. Évidemment. Donc une fois de plus, nous avons un garde des Sceaux et sans doute le président de la République qui est en désaccord avec l'opinion profonde, alors qu'il semblait, avec son sursaut d'autorité et un certain nombre de ses décisions, que M. Attal, le Premier ministre, était sur une ligne différente.
Ah ben, transition toute trouvée. Est-ce que ce sursaut d'autorité, c'est pas juste une intention ? Parce qu'il le répète dans tous les sens. Voilà, il faut serrer la vis.
J'espère qu'il va trouver une solution quelque chose va se passer au niveau des criminels minoritaires. Enfin, qu'est-ce qu'on fait avec les mineurs ? On peut pas. Le fait que les drames dont on a parlé depuis des mois,
c'est
pas acceptable de voir que des gamins de 13, 14, 15 ans se comportent comme ils se comportent, allant jusqu'à manier le couteau pris dans le premier cuisine qui se présente pour aller tuer un gars avec lequel vous n'êtes pas d'accord, avec lequel vous avez eu trois mots. Ça n'a pas de sens. C'est ça, à mon avis, le problème, plus que ce qu'il semble préoccuper M. Dupond-Moretti.
Alexis Brézé, ce matin, sur Europe 1, disait « Pour la gauche judiciaire, l'éducation exclut absolument la sanction. » Et quand Gabriel Attal dit « Ma boussole, c'est l'impunité zéro », le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, lui répond publiquement « Moi, je dirais simplement que ma boussole, c'est la Constitution. »
Mais il a raison, Alexis Brézé. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est au creuset, au ferment du débat sur l'éducation. C'est-à-dire que la victoire, depuis un certain nombre de décennies, de l'éducation positive, la victoire de l'excuse sociale, de la compréhension des contextes, etc., et d'une partie de la pensée bourdieusienne face à l'autorité et à ce sursaut ou ce choc d'autorité que voudrait Gabriel Attal, là, vous avez deux visions diamétralement opposées.
Il est empêché,
presque,
en fait,
du monde. Mais Gabriel Attal, si vous voulez, moi, je ne veux pas questionner sa bonne volonté. Je pense qu'il est de bonne volonté. Je pense qu'il a réellement envie de faire quelque chose et il doit ressentir
ce qui se
produit dans le pays.
Mais souvenez-vous, au début, quand il a parlé de sursaut d'autorité, fermeté, même quand il était à l'éducation, ça avait eu une vraie résonance. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il tape dans le vide parce qu'à chaque fois qu'il le répète, il ne se passe rien derrière.
Vous avez raison, mais pourquoi ça a une résonance ? Parce que, comme le dit votre sondage, effectivement, il y a les deux tiers des Français qui veulent plus d'autorité. Les deux tiers des Français qui sont atterrés, qui sont très en colère. Ce qui s'est passé à Châteauroux avec le jeune Matisse, ça met toute la France très en colère. Ce qui s'était passé avec Thomas à Crépol, ça met toute la France très en colère. Tout ça, c'est une superposition de traumas sur l'opinion publique qui se dit légitimement, moi je suis du côté de l'opinion publique, il faut faire plus. Il faut faire plus sur l'autorité, il faut faire plus en amont sur des sujets d'éducation, de culture et d'immigration. Et c'est tout ça qu'il faut repenser. Mais c'est un changement de paradigme total. Et des gens comme Éric Dupond-Moretti, c'est pas eux qui vont mener ce changement.
Bien sûr.
Ce monsieur Dupond-Moretti qui nous parle du sentiment d'insécurité. Il a 30 ans de retard, Éric Dupond-Moretti. Il est resté aux années
70.
Il est complètement à côté de la plaque. Donc effectivement, Gabriel Attal va avoir du travail.
Voilà, on voit le problème qui est en train de se dessiner. Il faut que Gabriel Attal conquiert une certaine indépendance. On sait bien qu'entre Matignon et l'Élysée, il est nécessaire de se parler, voire tous les soirs, et de décider ensemble. Néanmoins, comme il est jeune, Gabriel Attal, on le soupçonne déjà, au fond, d'avoir été nommé par le président pour que ce soit plus facile pour lui d'appliquer ses idées et sa politique.
Tu as raison.
Peut-être, mais ça ne va pas aller au bout, parce que la Ve République, ce n'est pas ça. Il faut qu'il y ait, de la part de M. Attal, il faut qu'il conquiert une certaine indépendance et qu'il fasse valoir ses points de vue. S'il perd tous ses arbitrages dans les mois qui viennent, son sursaut d'autorité, on en parlera plus rapidement.
Avant 14h, j'aimerais vous entendre, Jean-Claude Dacier et Paul Melun, sur ces préconisations, ce rapport d'experts qui donc sera transmis au président de la République cet après-midi. À propos des écrans, la France va-t-elle interdire les écrans aux enfants de moins de 3 ans ? Pas de téléphone avant 11 ans, de réseaux sociaux avant 15 ans. Voilà, c'est ce que propose cette commission d'experts. Qu'en pensez-vous ?
Moi, je trouve que cette commission, elle pose des questions qui sont fondamentales et qui sont vraiment très importantes. Il y a quelques mois, quelques années, il y avait des patrons de la Silicon Valley, vous savez, qui interdisaient à leurs enfants, avant 11 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, l'usage de tout objet connecté de tout objet numérique. Ça en dit quand même long, parce que ce sont eux les grands Manitou, les grands architectes des nouvelles technologies. Donc pour qu'eux-mêmes aient cette idée-là, moi ça m'avait, à l'époque, ça m'avait interpellé.
Là, c'est pour reprendre le contrôle et éviter les dérives et surtout les troubles du développement cognitif de nos enfants.
Il faut reprendre le contrôle. Quand vous voyez des enfants de 4 ans, 5 ans, parfois même de 3 ans, qui sont quasiment dans le landau avec des téléphones portables, des smartphones, pendant que les parents dînent au restaurant,
pour
avoir la paix, et qu'ils utilisent ça, on voit leurs doigts d'enfants comme ça qui s'agitent sur le clavier de façon très facile.
40% des parents se disent dépassés aujourd'hui parce qu'ils ont laissé faire. Et aujourd'hui, est-ce que c'est trop tard ? Est-ce qu'on peut encore inverser la tendance ? Franchement,
je sais pas si ça passera.
3 ans, on peut quand même.
Oui, évidemment qu'on peut. Je sais pas si ça passera par l'interdiction et par la loi, mais en tout cas, il est sûr qu'il est de la responsabilité des parents et de chacun dans l'éducation de se dire, eh bien non. Alors après, regarder un dessin animé à la télévision quand on a eu 7-8 ans, ça me paraît pas dramatique. Moi, j'ai regardé beaucoup de dessins animés quand j'étais petit. Je suis pas devenu fou. Bon, j'en regarde plus, mais j'en viens de regarder beaucoup.
Non, mais
Jean-Claude Dacier, vous ne regardez pas de dessins animés petits.
Non, mais je suis touché de près par ce problème.
Vous avez des petits-enfants, voilà.
Oui.
Et des enfants très...
Qui ont abusé avec la, comment dire, la bienveillance, pour ne pas dire la complaisance.
En quelques secondes, Jean-Claude, d'accord, pas d'accord avec ces interdictions.
Eh bien, je trouve que, comme Paul, je trouve qu'il est bien que ce rapport exista. Que sensibiliser les familles... On ne réussira pas à sensibiliser tout le monde. Mais au moins que l'on confirme que ce n'est pas toujours bon, à n'importe quel âge, de passer son temps. Ils ne lisent plus, ils ne parlent plus. Alors, ils sont entre eux et dans ce monde numérique. Mais entre nous, qui va réussir à imposer ce qu'ils préconisent ? Comment les contrôles vont-ils se faire ? Si c'est possible, qu'on le fasse dans une pipe avant qu'il soit trop tard.
Et on en reparlera ce soir, évidemment, avec Pierre de Villeneuve, dès 19h, dans Europe 1 Soir. Nouvelle formule avec vous, les chroniqueurs, évidemment, Europe 1 et CNews. On vous retrouve sur notre antenne et dans notre studio. Merci beaucoup et à demain pour de nouvelles aventures.
C'était Céline Giraud sur Europe 1. Très bon après-midi avec notamment Sophie Davant et sa bande de copains que vous retrouvez dès 16h pour jouer au grand jeu Europe 1 et tenter de gagner le jackpot qui s'élève à 1 200 €. Pour jouer, c'est très simple. Inscrivez-vous dès maintenant par SMS. Vous envoyez Sophie au 739-21. C'est 3 fois 75 centimes plus coût du SMS. Sophie et les copains, tout à l'heure de 16h à 18h avec l'invité du jour, l'acteur et réalisateur Clovis Cornillac. Pour le moment, c'est Christophe Ondelat que vous retrouvez dans un instant. 14h-15h, on de la traconte sur Europe 1.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque ? Non ? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel ?
prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Chez Poltrone Sofa, la qualité se voit, mais surtout, elle se ressent. Caressez le cuir du canapé Bormida et détendez-vous avec son relax électrique.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1184 euros.
Venez les ressentir en magasin. Poltrone Sofa, solo divan di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Entre passé et présent, héritage culturel et création contemporaine, l'artiste Jiang Chong-Or réinterprète les traditions chinoises millénaires au musée Guimet. Des installations monumentales et spectaculaires, une réflexion visionnaire sur le temps, un parcours sensoriel et spirituel comme un pont entre la France et la Chine. Gardien du temps, à découvrir dès maintenant au musée Guimet, avec Europe 1.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, les forfaits mobiles, ça me donne l'impression de passer à la mairie. Tous ces gigas jusqu'à ce que la mort nous sépare, merci bien.
Dis calme, on a la solution. En ce moment, chez Leclerc, le forfait réglo mobile avec 130 gigas et les appels SMS, MMS illimités est à 9,50 euros par mois. Et c'est sans engagement.
Sans engagement? Juré?
Mais oui. Le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc, conditions de l'offre consultable en magasin.